carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Dans le monde des arts des pays d'islam, Isnik évoque les fameux carreaux de céramique qui couvrent la plupart des grandes mosquées, des palais ou des mausolées de Turquie. À partir du XVIe siècle, Isnik, qui était devenu un centre politique majeur sous l'Empire ottoman, s'est imposé comme la capitale de la céramique ottomane, émaillée avec des décors floraux d'une grande finesse. On les retrouve sur les murs du palais de Topkapı ou sur ceux de la mosquée bleue d'Istanbul. Aujourd'hui, à Isnik, l'ancienne Nicée, les ateliers de céramique, un temps disparus, ont repris de l'activité depuis les années 1990. Que sont devenues ces faïences renommées? Ont-elles fait l'objet de collections? Qu'est-ce qui faisait leur valeur? Qu'est-ce qui fait encore aujourd'hui leur valeur? Qui les a ramenées en Europe? Comment ont-elles été introduites dans nos musées? J'accueille dans cette émission Frédéric Hitzel, historien et expert en œuvres d'art ottomane. Frédéric Hitzel, chercheur au CNRS, a publié un livre sur la plus grande collection des céramiques ottomanes conservées en France. Le titre de l'ouvrage, Isnik, l'aventure d'une collection, est publié aux éditions de la Réunion des musées nationaux. Frédéric Hitzel, bonjour.
Bonjour.
Présentez-nous l'originalité de ces céramiques qui font partie de ce qu'on appelle les arts du feu.
Oui, tout à fait, ce qu'on appelle les arts du feu, puisque les céramiques Isnik étant le nom d'un atelier qui se trouve dans l'ouest anatolien, ce sont des ateliers qui vont produire les plus belles céramiques ottomanes à partir du XVIe siècle. Donc ces céramiques, à l'origine, servent surtout à décorer les intérieurs de mosquées, les intérieurs de hammams, les intérieurs d'écoles coraniques et également les intérieurs de harems et de mausolées, là où sont enterrés donc les sultans.
Alors, elles sont connues depuis longtemps dans le monde entier. Elles ont été collectionnées, elles ont été offertes d'abord, elles ont circulé, elles se sont vendues. Enfin bref, on les connaît un peu partout. Elles ne sont pas restées sur place ou dans l'Empire ottoman, elles ont voyagé. Comment sont-elles parvenues jusqu'à Paris pour cette collection si particulière qui a fait l'objet d'un très beau livre, dont le titre est Isnik, un livre du Musée national de la Renaissance du château d'Écouen qui a recueilli une fabuleuse collection de ces céramiques. Et vous avez collaboré à ce livre, vous en avez écrit toute la partie historique concernant l'histoire un peu aventurière de ces céramiques et de la personne qui les a ramenées, qui les a vendues. On va rentrer dans ces détails. Donc Frédéric Hitzel, parmi ces céramiques, il y a une fabuleuse collection. On connaît la fabuleuse collection d'Auguste Salzmann, qui est justement au musée du château d'Écouen, musée national de la Renaissance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la singularité et la richesse de cette collection?
Alors, donc, au-delà des panneaux de céramique que j'ai évoqués tout à l'heure, il faut savoir que dès la fin du XVIe siècle, l'Empire ottoman va être confronté à une crise économique. Et donc, les artisans d'Isnik, plutôt que de continuer à produire des carreaux de céramique pour le palais, vont préférer faire une production locale de céramique sous forme de gobelets, de plats. Et c'est ces plats-là qui vont se développer donc à partir de la fin du XVIe siècle.
Une petite précision, Isnik, ce n'est pas très très loin d'Istanbul, même si c'est de l'autre côté, c'est en Asie mineure.
Voilà, c'est sur l'ouest anatolien. À l'époque, il fallait à peu près 8 jours pour rejoindre la capitale par la voie maritime, notamment. Donc c'est une région qui est connue historiquement parce que c'est là où, en 325, s'est tenu le concile de Nicée, là où a été condamné l'arianisme. Et donc, c'est une région qui a été aussi un lieu important pour les Ottomans au moment de la conquête, mais qui, effectivement, après la conquête de Constantinople en 1453, a perdu de son prestige, mais où se sont installés donc ces ateliers qui vont faire la renommée donc, des lieux.
D'accord, donc des ateliers de céramique et là qui se met à produire des objets de consommation courante, on pourrait dire.
Voilà, l'avantage c'est que c'est une région qui offre beaucoup d'argile pour fabriquer des plats, qui offre beaucoup d'eau et bien entendu il faut du bois pour faire chauffer ces plats de céramique. Donc la combustion est nécessaire, donc on a besoin de beaucoup de bois pour fabriquer ces plats, donc pour alimenter les fourneaux.
Alors d'où viennent ces artisans?
Alors, ces artisans, on ne sait pas trop.
C'est une question.
C'est des artisans locaux qui vont être très influencés par la céramique chinoise. Donc il est certain qu'il y avait déjà un commerce existant avec l'Asie centrale et des régions plus lointaines. Et on le trouve notamment à travers les colorants, puisque certains colorants viennent de régions très lointaines, notamment d'Afghanistan. On sait que donc, c'était une zone de commerce. Donc ces artisans ont pu arriver également après la conquête de Constantinople, puisqu'on sait que lorsqu'un pouvoir se met en place, il fait venir les meilleurs artisans. Et c'est souvent ces artisans, lorsqu'ils sont bien rétribués, travaillent agréablement pour le pouvoir, en quelque sorte. Et donc, ils vont développer un style. Alors, c'est un style très, très particulier, qui est facilement identifiable parce qu'il y a beaucoup de motifs floraux.
Oui,
notamment les motifs floraux.
Le public connaît, en fait, dès qu'on évoque un peu ces céramiques ottomanes, on a tous en tête ces motifs floraux, ces tulipes, ces feuilles, ces courbes, on va dire, et puis ces bleus et ces rouges et ces verts, si identifiables, justement, aujourd'hui. Mais ça fait l'objet de plusieurs styles. Toutes les couleurs ne sont pas arrivées en même temps. Enfin, vous allez nous raconter un peu.
Oui, il y a différentes influences. Voilà. Alors, on ne sait pas trop. C'est très difficile de séquencer ces périodes. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des formes florales, on a aussi des personnages qui apparaissent. Alors qu'en temps normal, on dit toujours l'islam refuse la figure humaine. On a des personnages qui sont représentés. On a des femmes en train de fumer.
Ah oui,
c'est un style très populaire. Hein. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un style populaire qui n'est pas destiné au palais. Et il y a aussi un grand nombre de bateaux. Il y a aussi des fables, ce qu'on appelait les fables d'Ésope, en quelque sorte, qui passent avant de repasser en Occident avec La Fontaine. On a donc des influences également persanes. On reconnaît à travers les vêtements des personnages des influences persanes, des influences chinoises. On a l'étude des bateaux a montré qu'il y avait aussi des bateaux qui venaient de la mer Rouge. Donc on voit que Iznik est une région où les artisans ont été inspirés par toutes sortes de sources.
Un milieu probablement cosmopolite aussi.
Alors probablement cosmopolite, puisqu'on sait que certains plats possèdent des inscriptions en langue grecque. Et de même que certains plats vont être très rapidement vendus en Occident. Et il y avait des commandes.
Il y avait des commandes pour le marché européen.
Pour le marché européen, notamment si italien. Notamment, on a retrouvé certains plats d'Iznik avec des très beaux blasons de grandes familles italiennes.
Et puis, ces personnages, puisque vous les évoquiez, c'est vrai qu'ils sont assez drôles pour certains. Vous parliez de ces femmes qui fument la pipe. Il y a des musiciens, il y a des scènes qui paraissent même des scènes amoureuses. Généralement, on pense qu'effectivement, la tradition islamique interdit la reproduction de la figure humaine et animalière. Or là, on a effectivement des exemples dans ces céramiques d'Iznik, des deux cas. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu, c'est pas tout à fait un interdit, mais ce que dit l'orthodoxie sunnite sur le sujet.
C'est-à-dire que, en tout cas, les Ottomans, qui sont des sunnites et qui vont se porter garant de ce sunnisme, ne l'affichent pas. Je veux dire, cette image, justement, cette possibilité de présenter des figures humaines. Ceci étant, c'est des périodes qui vont s'accentuer ou, au contraire, être moins importante selon les époques.
L'image humaine est proscrite, mais quand elle est en dehors d'un contexte de foi et de piété, c'est
tout
surtout là.
Tout à fait. Et là, justement, on est dans le domaine privé. C'est-à-dire que dans le domaine privé, la figure humaine est autorisée. On en a deux exemples très précis qui sont justement la miniature ottomane qui va suivre ses prédécesseurs qui sont la miniature persane et par la suite mongole, mais aussi on le voit bien à travers ces plats, des figures humaines qui apparaissent donc sur des supports en céramique. Et il y a d'autres supports, notamment en bois, où des figures humaines peuvent apparaître, ou en ivoire, et sur toutes sortes d'autres supports.
Alors dans ces céramiques, là effectivement, on en a de très beaux exemples là, avec des personnages, on a aussi de très beaux exemples avec des animaux, avec même beaucoup de fantaisie, hein, des renards bleus, mais c'est pas seulement parce qu'il y avait des bleus ou beaucoup de bleus dans les céramiques. Hein. Il y a des animaux aussi fantaisistes. Et puis, il y a aussi beaucoup d'oiseaux, des gazelles, des lions, des scènes de chasse. Et puis, des lions enchaînés. Enfin, des motifs qui sont récurrents aussi un peu dans les différents styles et qui correspondent à l'histoire de l'époque. Donc, on va revenir à la collection d'Auguste Salzmann. Qui était-il ?
Oui. Alors Auguste Salzmann, personnage très, très curieux, est un Alsacien, comme son nom l'indique, hein, qui est originaire de Ribeauvillers, qui est né en 1824, qui est issu d'une famille aisée. Donc il n'était pas dans le besoin de travailler, on va dire. Et très rapidement, il va être fasciné par l'Orient. Alors cet Orient, il va le découvrir dans un premier temps avec un artiste très connu qui s'appelle Eugène Fromentin. Eugène Fromentin, avec qui il va faire le peintre orientaliste Eugène Fromentin, avec qui, En 1847, il va faire un voyage donc, en Algérie. Ce premier voyage va beaucoup le marquer. Et après ça, il va poursuivre différents voyages. Et notamment, il va se proposer, parce qu'on est dans les années 1850, pour ramener des pièces d'Orient pour alimenter des petits musées. Des petits musées, notamment dans les années 1850. Il y a un musée qui est en construction, en projet, on va dire, à Colmar. Et c'est comme ça que, par exemple, il va aller dans les années 50 en Égypte, où il va rencontrer un autre illustre personnage qui est Auguste Mariette,
qui vient de découvrir le Sérapéum. Grand égyptologue.
Voilà. Et donc, il va ramener des pièces égyptiennes à Colmar. Comme ça, il va toucher à toutes sortes d'antiquités. Et en 1853, il va faire un voyage en Terre Sainte avec Félix Cagnard de Saucy, qui est un personnage très intéressant, puisque c'est celui qui va remettre en cause l'origine biblique des bâtiments construits à Jérusalem. Et la particularité de Sazman, c'est qu'il avait appris la photographie.
Oui, alors nouvel outil, il s'en est emparé. Bon, mais c'était assez commun pour les gens qui aimaient voyager à cette époque. Et donc, il a dû ramener des photographies.
Alors voilà, on ne sait pas avec qui il a été formé. En tout cas, il va faire les photographies de Jérusalem pour soutenir les théories de Félix Cagnard de Saucy. Et donc, c'est les premières photos de Jérusalem qu'on possède, qui donc datent des années 1854, qui ont été donc rapportées par Auguste Sazman. Alors c'est très important cette rencontre avec Félix Cagnard de Saucy, parce que toute sa vie, ça va être son mentor, c'est celui qui va l'aider, et on va le voir par la suite, c'est celui qui va l'aider à vendre sa collection au musée de Cluny.
C'est-à-dire que même si le personnage a un côté aussi un peu aventurier, il y a aussi un souci scientifique,
tout à fait.
Intellectuel, enfin très archéologique,
historique. Voilà. C'est un personnage, il y en a d'autres à cette époque, puisque on est vraiment au début de l'archéologie, on va dire scientifique, au sens où on l'entend de nos jours. Et donc, c'est dans les années 56 qu'il va décider de faire un séjour sur l'île de Rhodes à la suite de deux événements. Dans un premier temps, il va entendre parler qu'en le 12 octobre 1856, il va y avoir un terrible tremblement de terre sur l'île de Rhodes. Et il a cette crainte que les bâtiments, notamment des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean, disparaissent. Et il va être encore plus terrorisé, puisque un mois plus tard, on va apprendre que la poudrerie qui se trouve dans l'église Saint-Jean de Jérusalem va exploser à la suite d'une terrible tempête. Alors probablement un éclair est tombé sur le clocher et qu'il y avait une réserve de poudre qui se trouvait dans cette église. En tout cas, l'église est très endommagée et il se dit « c'est pas possible, il faut absolument que je me rende sur place pour sauver ce qui est encore possible ». Et donc c'est comme ça qu'en octobre 1857, il part sur l'île de Rhodes.
On est loin de Disney, mais il y a une raison.
Là, on est loin
mais
de Disney.
Il y a une raison.
Et voilà, on est loin. Mais il arrive sur l'île de Rhodes avec l'espoir de sauvegarder les biens de ses chevaliers. Mais très rapidement, il se rend compte qu'il n'a pas d'argent. Comment transporter, par exemple, à Paris, les sarcophages, les stèles funéraires des chevaliers de l'ordre Saint-Jean, par exemple, qu'il voulait récupérer. Et puis, très rapidement aussi, il se met à dos le gouverneur local, le gouverneur ottoman de l'île de Rhodes. N'oublions pas que Rhodes, à cette époque, appartenait à l'Empire ottoman. Et il va donc décider aussi d'entreprendre des fouilles archéologiques. Et c'est comme ça qu'il va découvrir un site extraordinaire qui s'appelle le site de Camiros, qui est un des grands sites de l'île de Rhodes. Donc il va faire des fouilles. Et comme il n'est pas aidé non plus à cette époque par les Français, et ça se sent justement dans la correspondance qu'il va avoir avec Félix Cagnard de Saucy, il va se tourner vers les Anglais, puisque rappelons-le, c'est à cette époque que les Anglais fouillent énormément dans cette région, enrichissent leur collection du British Museum, et notamment c'est à cette époque où Charles Newton va découvrir le site d'Halicarnasse, donc la ville actuelle de Bodrum, où se trouve l'une des sept merveilles du monde avec le mausolée du roi Mausole. Voilà, donc il reste dans cette région, et c'est dans cette région donc qu'il va découvrir des céramiques. Alors à cette époque, on ne savait pas que c'était des céramiques d'Isnik, très belles céramiques conservées à l'intérieur des maisons des habitants de l'île, notamment dans le village de Lindos. Dans le village de Lindos, donc il trouve sur les murs des tas de très belles céramiques.
Et ces céramiques que nous avons appelées céramiques d'Isnik ont porté et portent parfois encore le nom dans certains recueils de collections de céramiques persanes de l'île de Rhodes. Ça vient de là ?
Alors voilà, lui, à cette époque, personne ne savait où était Isnik et on ne savait pas où était cette production. Il était persuadé que c'était une production locale. Or, il va entendre sur place une tradition locale qui rapporte qu'au début du XVIe siècle, les chevaliers de Saint-Jean avaient arraisonné un très gros navire génois sur lequel se trouvaient toutes sortes de marchandises très précieuses, notamment des épices, de l'or et des potiers. des potiers, alors il dit d'origine persane, et que c'est à la suite de ça que les chevaliers de Saint-Jean les auraient ramenés sur l'île de Rhodes, les auraient installés, et d'où la production de céramique persane sur l'île de Rhodes. Or, les archives italiennes ont montré qu'en fait, effectivement, il y a eu un bateau qui a été arraisonné au début du XVIe siècle, mais il s'agissait davantage de pèlerins que de potiers. Et d'autre part, toutes les fouilles archéologiques qui ont été faites, notamment par les Suédois au début du XXe siècle, ont montré qu'il n'y a jamais eu de production locale. Et rappelons-le, enfin, que l'île de Rhodes tombe entre les mains des Ottomans à partir de 1522. Donc c'est très tôt quand même, hein, très tôt. Et on sait que, par ailleurs, cette production de céramique est plutôt fin XVIe siècle, seconde moitié du XVIe siècle.
Et vous parlez de céramique isnique.
Céramique
isnique. Hein,
voilà.
Donc elles sont très, très bien identifiées dans le temps.
Voilà, dans le temps, on les retrouve à partir des années 1550 jusqu'en 1600. Donc c'est la production qui est celle qu'on voit actuellement, par exemple, au château des Courants. Alors donc, Salzmann va décider de collectionner ces très belles céramiques qu'il trouve dans les intérieurs des maisons. Il va les échanger la plupart du temps contre des assiettes qu'il ramenait d'Europe, hein, des plats de Delphes, de Hollande, ou des plats anglais ou français. Il ramène cette collection. Il a conscience quand même que c'est une très belle collection. Et c'est vrai qu'il suffit de voir les couleurs, de voir les motifs pour s'en convaincre. Il les ramène en Europe avec l'idée, dans un premier temps, de les vendre au British Museum. Et puis finalement, c'est son ami Félix Quénière de Saucy qui va l'encourager à les vendre à un musée parisien. Alors lequel ?
Alors là, lequel ?
Quel musée parisien ?
À l'époque.
Or, à cette époque, Quénière de Saucy était très ami avec Dussommerard, Edmond Dussommerard, qui était le directeur du musée de Cluny, donc qui était ouvert depuis peu. Et donc, musée du Moyen-Âge. Alors voilà, il fallait quand même justifier pourquoi le musée du Moyen-Âge allait acquérir une collection.
Et une collection ottomane.
Une collection, on ne savait pas trop d'où elle venait, mais alors justement, c'est là où cette collection va être vendue finalement à partir des années, en plusieurs lots, mais disons qu'en 1866, l'ensemble des 467 assiettes sont vendues au musée de Cluny. Sous quel prétexte ? On va dire, c'est une production persane, faite par des potiers persans captifs qui ont été donc emprisonnés par les chevaliers de Rhodes, qui les ont installés sur l'île de Rhodes. Et donc, c'est pour ça que cette production était destinée aux chevaliers de Rhodes.
C'est, disons, l'astuce que peut-être trouve Auguste Salzmann pour vendre sa collection.
Entre autres, c'est vrai que ça a justifié. Surtout que n'oublions pas qu'à cette époque, la France a un renouveau par rapport à l'île de Rhodes. Il y a la nostalgie des chevaliers de Rhodes. N'oublions pas qu'il y a le voyage de Chateaubriand en 1806 sur l'île de Rhodes. Le sultan Mahmoud II a offert à Louis-Philippe les portes de l'hôpital Saint-Jean qui sont de nos jours conservées au château de Versailles. Et n'oublions pas qu'en 1862, par exemple, tous les canons de l'île de Rhodes ont été offerts par le sultan Abdulaziz à Napoléon III pour le remercier de l'aide française dans l'expédition de la guerre de Crimée. Et c'est ce qui explique que de nos jours, tous les canons de l'île de Rhodes sont conservés dans la cour des Invalides. Voilà, 14 canons qui sont conservés dans la cour des Invalides. Et si vous vous rendez dans la cour des Invalides, vous verrez que ces très beaux canons qui sont parmi les premiers canons conservés, puisque certains canons sont de la fin du XVe siècle. Donc vous voyez qu'il y a cet engouement pour Rhodes. Et c'est vrai que lorsque Salzmann propose ses plats en disant « c'est une production pour les chevaliers de Rhodes », il est vrai que le musée de Cluny est très intéressé donc, par cette collection. Alors ce qui va renforcer en plus l'hypothèse, c'est ce fameux plat qui représente ce personnage à la lettre.
C'est un grand plat rond qui fait à peu près 30 cm de diamètre. Et en son centre, il y a un personnage avec un grand manteau rouge, des bottes rouges, qui a un turban, qui a les yeux au ciel et qui a dans sa main droite, visiblement, deux feuillets sur lesquels on distingue très très bien des écritures. Et les écritures sont aussi dans le vide, il y en a aussi. Et puis, tout autour de lui d'abord, des motifs floraux et également sur le pourtour du plat, des motifs. Alors, il y a un fond blanc et il y a à peu près 3-4 couleurs dominantes hein, dans les bleus, les verts, les rouges et le blanc pour le fond. Et un petit peu de noir pour dessiner le trait. Alors, donc, ça s'appelle voilà. Le jeune homme à la lettre. Et c'est tout à fait particulier, vous l'allez nous expliquer.
Alors voilà, ce qui va renforcer l'hypothèse de Salzmann, d'Edmond Dussommerard pour acheter donc cette collection de plats, c'est que la lettre que tient le personnage est écrite en persan et raconte une plainte.
Ô mon Dieu, quelle souffrance, qu'ai-je fait, mon Dieu, pour être éternellement tourmenté et dans l'exil ? Point d'interrogation. Quand y aura-t-il un terme à ces douleurs ? Ce que mon cœur désire, quand sera-t-il accompli ? J'aurai encore, ô mon Dieu, à te dire bien des choses, mais comment m'entendras-tu ? Ibrahim dit cela, voyant quand ses prières seront exaucées.
Voilà, alors quand ça avait été lu à l'époque, ça avait été interprété comme un personnage qui se plaint de sa condition de captif. Donc c'est une lettre à sa bien-aimée, en quelque sorte, où il se plaint de sa condition de captif. Or, les études récentes qui ont été notamment menées par Ludwig Kalus, professeur à l'EPHE, l'École pratique des hautes études, a montré qu'en fait...
Tout récemment.
On a montré qu'en fait, c'était davantage une lettre d'un bien-aimé à sa bien-aimée, en quelque sorte.
Une lettre d'amour.
Une lettre d'amour. Et qu'il ne fallait pas spécialement voir l'histoire d'un prisonnier. En tout cas, l'histoire du prisonnier a servi de prétexte, en plus pour donc Salzman, pour dire, vous voyez, c'est des potiers persans qui avaient été emprisonnés par les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean, et c'est normal qu'il y ait ce plat, puisque ce personnage se plaint. Et donc, c'est ce qui justifie que le Musée de Cluny doit absolument acquérir cette collection. Alors, donc, c'est comme ça que cette collection va rentrer au Musée de Cluny. Alors, malheureusement, Salzman ne va pas vivre très longtemps pour connaître son succès, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est une collection qui va connaître un énorme succès lorsqu'elle va...
Un succès public.
Voilà,
Elle va être présentée au public. Justement, le public parisien va se presser et va développer tout un goût ottoman.
Pour finir avec Salzman, très rapidement, en 1872, malheureusement, il meurt un peu dans la déchéance. Par contre, là, donc, la collection va rester. Musée de Cluny va avoir un énorme succès, notamment au moment de l'exposition universelle de 1878, organisée au Trocadéro, puisque comme toute exposition universelle, beaucoup de gens viennent à cette exposition et vont visiter les salles du Musée de Cluny, puisqu'elles sont exposées à cette occasion, dans ce qu'on appelait les galeries persanes, justement. On montre ces plats et notamment les céramistes de l'époque vont s'emparer de ces motifs. Et notamment les plus grands artistes des arts du feu de cette époque, les plus connus étant notamment Théodore Deck ou Sanson, Lachenal pour la partie française, ou des Anglais comme William Morris, hein, qui est très connu, ou bien le Hongrois Miklos Solnay, ou les Allemands Villeroy et Bock, et également Cantagalli pour la partie italienne.
Certaines pièces seront même reproduites, je crois.
Alors voilà, beaucoup de pièces vont être reproduites à cette époque. On va faire énormément de copies. Et ce qui est très amusant, c'est que ces copies maintenant, qui se vendent actuellement sur le marché parisien ou dans le monde, ont pris une valeur considérable, puisqu'elles sont aussi le reflet de cette production des arts du feu à la fin du 19e siècle. En tout cas, elles vont avoir un impact énorme donc sur les arts du feu. Cet impact va aussi entraîner un engouement pour les pièces de collection. C'est ce qui explique que les grands collectionneurs du Moyen-Orient de la fin du 19e vont s'emparer de ces pièces. L'un des plus connus étant Kalus Gulbenkian.
Qui a laissé un magnifique musée à Lisbonne.
Voilà, et si vous avez l'occasion d'aller à Lisbonne...
Il y a des faïences ottomanes sublimes.
Il a collectionné 111 assiettes isniques, justement, parce que lui-même étant originaire d'Orient, il était très attaché à ses céramiques et il a un très très bel échantillon. Et il y a d'autres aussi institutions qui, à cette époque, vont constituer des très belles collections, notamment ce qu'on appelle le Victoria and Albert Museum de Londres. Et donc, il y a une des plus belles collections actuelles, mais qui est malheureusement pas visible, en tout cas dans son entier.
Peut-être pour expliquer ce qui a fait l'adhésion du public, on peut peut-être présenter un peu les différents styles. Motifs floraux.
Alors, on peut préciser déjà ce qui fait la spécificité de Disnick. Alors, la spécificité Disnick, en deux mots, c'est que c'est de l'argile, bien entendu, mais c'est 80% de silice. C'est-à-dire qu'à l'origine, les artisans broyaient des silex et les ont ajoutés avec de l'argile et ont fait une sorte de pâte sur laquelle, après, les artistes vont peindre. Alors, ce qui fait justement la spécificité des plats isniques, c'est que c'est très lourd. Quand vous les avez entre vos mains, c'est des plats très lourds, contrairement à la porcelaine chinoise qui est très légère. Et donc, après ça, les artistes, une fois que vous aviez la forme de l'assiette, les artistes peigner dessus des différents motifs.
On a même, je crois, un exemple là dans le catalogue d'un plat où il n'y a pas encore toutes les couleurs, avec le dessin préparatoire.
Voilà,
c'est rarissime, d'habitude on le voit pas.
Voilà, en tout cas, il y a un dessin préparatoire qui est fait avec probablement des sortes de calques. Après ça, on dessine et on pose les couleurs. Alors les couleurs, il faut savoir que ce sont des oxydes. Ce sont des oxydes métalliques, c'est-à-dire l'artiste pose des couleurs. En fait, les couleurs ne vont apparaître qu'à la cuisson.
Quand on ouvre la porte du four, voilà. On découvre...
Notamment, l'oxyde de cobalt va donner ce bleu, ce fameux bleu.
Le bleu de cobalt, voilà. un peu turquoise.
Voilà.
Alors, il y a tous les bleus avec du manganèse, l'oxyde de fer, pour les rouges.
Et le rouge, le fameux rouge,
voilà,
est une argile qui va apparaître dans les années 1850, ce qu'on appelle une argile ferrugineuse, qui va faire cette couleur rouge très spécifique, rouge tirant vers les ocres, et qu'on n'a pas réussi à reconstituer encore à de nos jours, de façon exacte. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où venait cette argile, déjà.
D'accord.
On ne sait pas. On l'appelle le bol d'Arménie. On ne sait pas trop où est-ce qu'il était produit, d'où il venait. Et en tout cas, il ne va pas durer très longtemps. Il va durer de 1550 à peu près à 1580 et qui va redisparaître par la suite. Il y aura d'autres rouges, hein, mais pas ces rouges un peu briques, ocre.
Voilà, c'est un rouge brique.
Voilà.
Et alors, plus ou moins foncé, parce que quand ils l'ont introduit, quand ils l'ont utilisé, ils l'ont aussi utilisé avec différentes intensités. Il y a des plats où au centre, c'est un rouge, on va dire, plus léger. Et puis sur le bord du plat, c'est plus dense. Et ça finit vraiment avec cette couleur brique particulière.
Et quand ça chauffe, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'à basse température, cette argile ferrugineuse gonfle. Et lorsque vous passez vos doigts, encore de nos jours, sur des céramiques qui ont été faites à cette époque, notamment, si vous avez l'occasion d'aller à Istanbul, il y a la fameuse mosquée Rustem Pacha, l'une des plus belles mosquées contenant des revêtements de céramique. Lorsqu'on passe le doigt, on sent ce rouge en relief qui a gonflé plus que les autres couleurs.
Plus que les bleus et les verts.
Voilà, plus que les autres oxydes. Donc, c'est ce qui fait la spécificité donc, de cette céramique. Et donc, une fois que les oxydes étaient posés donc, sur ces plats, on mettait le plat dans un four. Donc, les couleurs apparaissaient. Il fallait à peu près une semaine de cuisson parce qu'entre le moment où on mettait le moment de refroidissement, il fallait un certain laps de temps. Et il fallait des températures de 900 degrés. On n'avait pas besoin de monter au-delà, contrairement aux porcelaines chinoises. Parce que c'est ça aussi, c'est ce qui fait la différence avec Iznik, c'est qu'à peu près à 900, à moins de 1000 degrés, on obtient une cuisson. Alors que la porcelaine nécessite des cuissons beaucoup plus importantes, de l'ordre de 1500 degrés.
Il y a plusieurs styles dans ces céramiques d'Isnik, plusieurs décors. Alors, décors floraux, on a parlé tout à l'heure, on a évoqué les décors animaliers et avec des personnages. Mais visiblement, tout ce qui est motifs floraux a eu beaucoup d'importance. Alors, on trouve des tulipes, des œillets. Pourquoi les fleurs ont eu tant d'importance dans cette culture ottomane ?
Alors, rappelons déjà que les fleurs à bulbe, traditionnellement, viennent d'Orient. Elles sont à l'état sauvage lorsque vous allez en Afghanistan au printemps ou en Asie centrale. Et donc, ces bulbes ont été en quelque sorte élevées, soit les cours timourides et après par les cours ottomanes. Et c'est vrai que ces bulbes-là qui vont être cultivés donc, par des jardiniers en chef très respectés. Et c'est ces bulbes-là que les Occidentaux vont découvrir au XVIe siècle.
On a un document que vous rapportez dans ce livre. Alors, il y a d'abord un voyageur en 1546, Pierre Belon, qui rapporte à propos des fleurs en général. Il n'y a gens qui se délectent de porter de belles fleurettes qui ne les prisent plus que font les Turcs. Car quand ils trouvent quelques belles giroflées ou autres élégantes fleurettes, encore qu'elles soient sans odeur, néanmoins, elle ne perdra point son prix. Nous aimons les bouquets de plusieurs fleurs et petites herbettes odorifantes mêlées ensemble, mais les Turcs ne se soucient que de la vue et ne veulent porter qu'une fleur à la fois, et encore qu'ils en puissent avoir de plusieurs sortes, toutefois suivant le commun usage. Ils en portent plusieurs, seul à seul, dedans le repli de leur turban. Les artisans ont communément plusieurs fleurs de diverses couleurs devant eux, dedans quelques vaisseaux pleins d'eau pour les tenir fraîchement en leur beauté. Alors apparemment, les fleurs ont grande importance dans la culture ottomane et les différents décors des céramiques, il y a des décors à œillets, des décors de tulipes, la feuille de saz, vous allez peut-être nous en parler. Mais alors, revenons peut-être sur ces tulipes.
Alors justement, c'est un voyageur qui s'appelle Auger Ghislain de Bousbecque qui, lorsqu'il va venir au début du XVIe siècle, va découvrir ces tulipes. Et c'est lui qui va ramener justement ces bulbes en Occident, va les introduire à Amsterdam. Et encore de nos jours, effectivement, beaucoup de gens imaginent que la tulipe vient de Hollande, alors qu'à l'origine, elle vient d'Orient. Et c'est là où, justement, elle va connaître son succès à travers l'Occident.
Et alors, de lui, on a quelques mots aussi dans un récit de voyage. « Nous nous dirigeons vers Constantinople et une abondance de fleurs s'offrit partout à notre regard. Narcisses, jacinthes et celles que les Turcs appellent tulipans, je ne sais pas comment on prononce, tulipans, à notre grand étonnement, car à cette époque de l'année, presque le milieu de l'hiver, est peu favorable aux fleurs. La Grèce abonde en narcisses et en jacinthes, remarquables par leur parfum. Ces tulipans n'ont pas de parfum, ou fort peu, elles sont admirées pour la variété et la beauté de leurs couleurs. » Et alors on en trouve, effectivement, il y a même des décors de tulipes, des places spécialement consacrées à ce motif floral.
Le mot tulipe vient du mot turc qui est tulbent qui signifie un léger voile qui recouvrait probablement de rosée les certaines fleurs, parce que de nos jours, la tulipe en Turquie se dit l'allée. L'allée, en tout cas, ce petit voile qui a donné tulben, qui vient du mot turc tulben, a donné tulipe. On retrouve tulpen en fait en allemand et en hollandais. Et c'est de là qu'est passé le mot en Occident tulipe. En tout cas, chez nous.
Il les stylise beaucoup, ces tulipes. C'est des tulipes mouchetées, pour certains.
Voilà. Surtout, là, ce qui fait la spécificité de la tulipe turque, encore maintenant, lorsque vous allez acheter des tulipes, vous avez encore le modèle turc. Ce sont ces modèles très effilés. Très voilà. Effilés au sommet, les pétales très effilés, et c'est ce qui fait cette spécificité. Alors que la tulipe hollandaise classique, on va dire, est plutôt ronde. En tout cas, ces bulbes de tulipes vont avoir des prix astronomiques, hein, puisqu'on sait qu'après, certains diplomates vont vouloir obtenir absolument des bulbes contre des sommes considérables pour pouvoir les ramener en Occident.
Puisque les motifs floraux là, sont déclinés de plusieurs façons, avec différentes sortes de fleurs, et puis aussi après avec des bouquets, des petits bouquets, des bouquets avec agrafes, des fleurs coupées aussi, brisées, disons. Pourquoi représenter tant de fleurs comme ça sur
Alors bon,
parce
c'est
que c'est
vrai.
Quand même l'essentiel de la production.
Oui, c'est l'essentiel de la production. Alors, il faut aussi rappeler que tous ces motifs étaient imposés par les artisans du palais. En fait, le palais donnait des consignes et notamment donnait des modèles. C'est ce qui explique que, notamment ces modèles de floraux, on les retrouve sur les céramiques, mais on les retrouve aussi sur des caftans,
oui, c'est-à-dire je vais vous demander.
Sur les très beaux caftans. On les retrouve aussi sur des supports en cuivre. On les retrouve. Donc, ce sont des motifs qui sont imposés par la cour et qui vont être déclinés après donc sur différents supports. Et donc, c'est vrai que c'est le motif floral qui revient le plus souvent. C'est vraiment ce qui plaît, à tel point qu'encore de nos jours, la Turquie utilise ce symbole comme pour véhiculer son image, et que lorsque des réformes sont mises en place dans le pays, les Turcs notamment, les gouvernements n'hésitent pas à planter partout des tulipes, parce que la tulipe, symbole de progrès, symbole d'avenir, et donc c'est vraiment un symbole qu'on le retrouve très très souvent encore de nos jours en Turquie.
Alors Frédéric Hitzel, je vous remercie beaucoup pour cette invitation au voyage tout à fait inattendu, tout en surprise à travers la présentation des céramiques ottomanes d'Isnik. Et j'invite tous nos auditeurs à se procurer ce très beau livre et aller aussi au Château des Coins pour voir encore, puisque là, ça fait partie des collections permanentes. On n'a pas expliqué comment elles étaient passées de Cluny au Château des Coins.
En deux mots, les pièces vont être dispersées à la fin du 19e et elles vont revenir au Château des Coins lorsque le château va être créé en 1585.
C'est là qu'on peut les admirer.
C'est là qu'on peut les admirer dans une pièce particulière qu'on appelle la salle Isnik, où elles sont pratiquement toutes exposées. Et c'est vrai que c'est une pièce qui a un succès unanime de la part des visiteurs lorsqu'ils viennent au château de la Renaissance, au château des Coins, au musée de la Renaissance.
Et une dernière question, à Isnik aujourd'hui, il y a toujours des céramiques qui sont produites. Ce sont des ateliers pour touristes ou c'est...
Alors là aussi, c'est un aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est-à-dire qu'en fait... On va les appeler céramiques de Rhodienne ou céramiques persanes jusque dans les années 50. Et c'est dans les années 50, lorsque on va découvrir les ateliers et les fours et les restes de tessons de ces ateliers à Isnik, qu'on va avoir la preuve certaine que c'était bien à Isnik que ces céramiques étaient fabriquées. Et donc, de nos jours, les Turcs ont redécouvert en quelque sorte cet art. Et maintenant, à Isnik même, il y a beaucoup d'ateliers qui font des copies À partir justement de ces catalogues, notamment le catalogue des Couans et d'autres catalogues, par exemple, du musée Gulbenkian, pour s'inspirer et refaire des céramiques sur le modèle des anciens. Voilà. Et donc, ça se perpétue maintenant, en quelque sorte. Et heureusement, puisque comme ça, on peut se procurer à moindre prix ces très belles céramiques, puisque malheureusement, celles qui restent sur le marché ont des prix inabordables pour la plupart d'entre nous.
Merci encore. Et bien, écoutez, une prochaine émission sur ce qui concerne les trésors et l'histoire de l'Empire ottoman.
Je vous remercie.